Deutsche Welle. Économie et développement.
Que pensez-vous de privilégier le riz local dans votre cuisine plutôt que celui qui est importé? En 2014, le Sénégal prévoyait d'arriver en 3 ans à produire assez de cette céréale pour être autosuffisant, mais il y a encore des progrès à faire, vous l'entendrez. Ensuite, nous parlerons de la RDC et des pistes pour améliorer les conditions de vie de ceux qui travaillent dans les mines d'or artisanales. Bienvenue pour ce nouveau numéro. Depuis 2014, la production locale de riz a augmenté, assurent les autorités sénégalaises, mais les producteurs exigent plus de moyens pour réussir à tenir le pari. Ils produisent du paddy, c'est-à-dire du riz à l'état brut, qui doit encore être décortiqué pour pouvoir être consommé. Notre correspondant Mamadou Lamine Ba fait le point sur ce dossier, en rappelant notamment les propos du président Macky Sall.
Aujourd'hui, l'objectif c'est qu'on va être autosuffisant. Il faut relever les performances de la filière et arriver à une totale autosuffisance en 2017.
Ainsi parlait le président Macky Sall en 2014. C'était à l'occasion du lancement du programme national d'autosuffisance en riz. Chaque année, le Sénégal importait 450 000 tonnes de riz en provenance de l'Asie. Avec les fluctuations climatiques, l'autonomie en riz devient une priorité nationale pour l'État. 74 milliards de francs CFA sont alors injectés dans le programme national d'autosuffisance en riz. Moussa Baldé, directeur de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal, Sodagri, explique.
Cela voulait dire qu'il fallait, pour couvrir les besoins au niveau national, une production d'environ 1 600 000 tonnes de paddy sur l'étendue du territoire. Il y avait globalement 2 zones de production qui étaient attendues, la vallée du fleuve Sénégal, bien sûr, et naturellement la Casamance et les zones dites pluviales.
L'État engage des travaux et donne des machines agricoles aux riziculteurs. Un objectif est fixé pour 3 ans. Samadio Benka est le directeur de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal.
Ce qui était convenu, c'est qu'en 2017, que le Sénégal puisse atteindre au minimum 1 600 000 tonnes de riz de paddy. Aujourd'hui, le Sénégal est à 1 015 000 tonnes de paddy, avec une contribution de plus de 455 tonnes issues de la région du fleuve.
L'objectif 2017 n'est donc pas atteint. Sénabou Mbaye, ancien expatrié en France, rentré au bercail pour cultiver le riz, trouve une explication.
Il n'y a pas assez de terres aménagées pour la riziculture, premièrement. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là, parce qu'il y a beaucoup de producteurs qui ne disposent pas encore de machines donc pour pouvoir moderniser leur agriculture.
L'administration ne partage pas cet avis. Moussa Baldé défend les efforts consentis par l'État.
Je pense qu'en termes de matériel agricole, en termes de semences, l'effort qui a été fait et sans commune mesure et sans précédent depuis peut-être l'indépendance du Sénégal. On ne peut pas dire donc à ce niveau qu'il y a un manque.
Un nouvel objectif est lancé pour atteindre l'autosuffisance en riz en 2018. Les experts sont mis à contribution. Dr Elhadj Traoré est chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole.
Le Sénégal, je crois, en matière de riz irrigué, a l'un des meilleurs rendements qu'on peut trouver au monde, c'est-à-dire rendements moins de 6 à 7 hectares et des pics qui vont jusqu'à 10, 12 hectares, tonnes à l'hectare. Je crois que c'est important. Donc ça veut dire que la recherche a fait beaucoup de progrès.
Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, les paysans produisent du riz, toutes saisons confondues. 500 tracteurs ont été récemment réceptionnés par l'État à destination des producteurs, des machines agricoles qui vont améliorer les conditions de travail des riziculteurs du Sénégal. Objectif, atteindre l'autosuffisance en riz dans les années à venir. L'administration se dit optimiste. Moussa Baldé avance les raisons qui fondent son espoir.
Vu tous les efforts qui ont été faits, vu les résultats, parce que le Sénégal a tout simplement triplé en 3 ans sa production, nous pensons que en maintenant cet effort, il n'y a aucune raison pour que, dès la fin de l'an prochain, qu'on puisse pouvoir produire 1 million à 1 800 000 tonnes de paddy au Sénégal.
Issa Touré est le président du réseau des journalistes associés aux questions agricoles. Il est indécis sur l'atteinte des objectifs en fin 2018.
Il a posé les jalons en renforçant le matériel agricole, en exploitant des terres au niveau de la vallée. Les conditions sont posées. Je pense que même si 2018, on n'atteint pas l'objectif fixé, à savoir l'autosuffisance, mais je pense que de peu, on pourra, dans quelques années, on pourra atteindre cet objectif parce que le gouvernement a mis les moyens.
Chez les producteurs, on pose des conditions pour réussir le pari.
Très sincèrement, je pense que c'est pas pour 2019, mais si on garde le cap et si on essaye d'encadrer les producteurs pour qu'on soit plus compétitif, donc je pense qu'on pourra y arriver bientôt certainement.
Le Sénégal produit une grande quantité du riz consommé dans le pays. L'État a mis les commerçants à contribution pour appuyer les producteurs. Samba Sarr est membre du Conseil national de concertation des ruraux.
On a demandé au gouvernement de pousser ces commerçants importateurs à porter aussi bien le riz importé que le riz local. Et depuis qu'ils l'ont fait, ben ce mécanisme-là est bon et permet un bon écoulement du riz sénégalais.
Les producteurs, eux, réclament plus d'efforts de la part de l'État.
Il faut nous permettre, nous, jeunes Sénégalais, nous, jeunes Africains, qui avons envie d'investir dans l'agriculture, de porter le développement de notre pays, d'avoir au moins les financements, d'avoir les moyens de se hisser à ce niveau-là pour permettre au Sénégal et puis à notre continent d'être autosuffisant.
Le Sénégal importe également 200 000 tonnes de maïs de l'Amérique du Sud. Le gouvernement veut réduire la dépendance du pays dans ce domaine. Un programme est en gestation pour rendre le pays autonome en cette céréale. Mamoudou Lamine Ba, à Dakar, pour la Deutsche Welle.
Et petit rappel historique, le maïs cultivé en Amérique a été introduit au XVIe siècle en Afrique, tout d'abord en Égypte, puis en Guinée, cette fois par les Portugais. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les mines d'or artisanales feraient vivre 200 000 mineurs et leurs familles. Vous le savez sans doute, les conditions de travail sont rudes, voire extrêmes. Quelles sont les pistes pour les améliorer? Eh bien, en diversifiant les sources de revenus et en impliquant notamment le secteur privé dans le développement, répond un rapport du Centre européen de gestion des politiques de développement, basé à Maastricht. Selon Karim Karaki, chargé de mission et auteur du rapport, le passage entre l'économie informelle et formelle reste compliqué et ce ne serait pas forcément une bonne solution pour de meilleurs revenus.
Il y a certainement des avantages à entrer dans l'économie formelle, mais entre les barrières légales, culturelles, sociales, économiques sont telles que ça n'est presque pas une possibilité pour les mineurs, ou même ça ne va pas forcément dans leur propre intérêt de rejoindre l'économie formelle. Par exemple, il y a aussi... En RDC, dans le du Congo-Bal, s'il est mineur, donc fait partie de l'économie formelle, c'est-à-dire qu'il doit vendre sa production à des commerçants formels, dans des points de vente certifiés. Donc, où les différents services publics vont quand même prélever des taxes. Donc, même au niveau économique, les bénéfices perçus par les mineurs artisanaux n'apparaissent pas comme étant plus importants dans l'économie formelle que dans l'économie informelle.
Et en quoi associer les mines et l'agriculture, vous en parlez dans votre rapport, permettrait aux mineurs de mieux vivre?
Bien souvent, les activités minières côtoient les activités agriculturelles. Et il y a une forte connexion du coup entre ces deux secteurs et celle-ci est due en particulier à la nature saisonnière en fait de ces secteurs. C'est-à-dire que en fait, pendant la saison sèche, les travailleurs auront tendance à travailler davantage dans le secteur minier. Parce qu'au niveau de l'agriculture, il y a beaucoup moins d'activités qui sont demandées. Tandis que pendant la saison des pluies, ils auront davantage tendance à travailler dans l'agriculture. Il y a une connexion, on va dire, qui est saisonnière, mais il y a aussi une connexion au niveau en termes de revenus. C'est-à-dire que, du coup, les mineurs gagnent un revenu qui vient du secteur minier, mais aussi de l'agriculture. En d'autres mots, certains académiques ont tendance à parler de stratégie de diversification des revenus, c'est-à-dire pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans ce cadre-là, où il n'y a pas de garantie de revenus, justement, le secteur de l'agriculture vient pour compenser un peu ce manque à gagner. Mais là où on vient un peu le nœud du problème, c'est que jusqu'à présent, les partenaires au développement, donc les bailleurs de fonds, ont tendance à avoir des stratégies sectorielles et donc à se focaliser seulement sur le secteur de l'agriculture ou le secteur minier, mais sans forcément voir la connexion entre les deux secteurs. Et donc c'est là où vient mon argument, il faut mieux connecter ces deux secteurs.
Vous parlez des acteurs du développement. Il y a aussi, vous plaidez pour une association entre les acteurs du développement, les responsables politiques, économiques, les communautés locales, pour que voilà tout ce monde travaille ensemble. Et ils ont aussi des intérêts divergents. Comment est-ce qu'on peut améliorer ces relations?
Chaque acteur va venir avec ses propres intérêts, ses propres contraintes, ses propres perspectives sur ce qui devait être fait pour la situation des mineurs artisanaux en RDC et aussi contribuer à la transformation économique du pays. Maintenant, il y a aussi une certaine interdépendance entre les différents acteurs. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le secteur privé tout seul n'arrivera pas à générer des changements durables sur le long terme. De la même manière, le travail des ONG, comme des partenaires au développement, n'arriveront pas à adresser seuls les problèmes de transparence en ce qui concerne les rentes générées et captées par l'élite politique. Donc c'est pour ça qu'il faut pousser les acteurs à penser sur le long terme, autour d'une vision commune, mais aussi à s'assurer que ces collaborations soient équilibrées. C'est-à-dire qu'il y a souvent un rapport déséquilibré entre, par exemple, le secteur privé qui a beaucoup de ressources et les ONG. Et donc, dans ce contexte-là, les bailleurs de fonds, les partenaires en développement, ont un rôle à jouer afin d'équilibrer davantage ces relations de manière à ce que les partenaires puissent travailler, on va dire, main dans la main et autour d'un projet commun.
Enfin, sachez que la semaine dernière s'est tenue la semaine minière à Lubumbashi, dans le sud-est de la RDC. Les entreprises étrangères du secteur, comme le géant suisse Glencore, mais aussi des sociétés chinoises, indiennes, sud-africaines, se sont plaintes du manque d'électricité qui empêche la transformation sur place des minerais bruts extraits en RDC. Et ce qui empêche aussi la création de valeur ajoutée et d'emplois dont le pays a besoin. Il a donc été question à nouveau du barrage d'Inga 3. Selon le chargé de mission du chef de l'État, Joseph Kabila, l'objectif est de démarrer les travaux d'Inga cette année. La construction va durer de 5 à 7 ans, peut-être jusqu'à 11 ans, et le coût est de près de 14 milliards de dollars. Le grand Inga risque d'arriver alors que les mines, qui ne sont pas éternelles, ne seront plus là, a prévenu un représentant minier du Katanga. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce magazine est en réécoute sur notre site dw.com/français, rubrique médiathèque. C'était Claire-Marie Kostmann au micro. Au revoir et à la semaine prochaine.